Je suis une légende, de Richard Matheson, partie 3, lu par Clément Stupnicki. Le réveil matin ne sonna pas, parce qu'il avait oublié de le remonter. Lorsqu'il s'éveilla, il était 10 heures. Avec un soupir dégoûté, il s'assit sur le lit et, aussitôt, un marteau se mit à lui battre les tempes. « Parfait !» pensa-t-il. « J'ai la gueule de bois, c'est exactement ce qu'il me fallait !» Il se traîna jusqu'à la salle de bain et se plongea le visage dans l'eau froide. Il se sentait malade comme un chien. Dans le miroir, son visage blême et mal rasé avait l'air d'être celui d'un homme de 45 ans. Il alla ouvrir la porte d'entrée et lâcha un juron à la vue du cadavre de femme allongé sur le trottoir. Mais la colère menaçait d'aggraver sa migraine et il préféra penser à autre chose. Le ciel était d'un gris terne. « Ah, merveille » pensa-t-il. « Encore un jour à passer dans ce trou à fortifier. » Il claqua la porte, mais le bruit résonna douloureusement dans son crâne. Il entendit tomber sur le sol de ciment les derniers débris du miroir. Deux tasses de café noir n'arrangeaient rien du tout, et il songea à recommencer à se saouler. Mais le whisky lui parut avoir un goût de térébenthine, et il jeta le verre à moitié rempli contre le mur du living room. Il se laissa tomber sur le divan. Décidément, ils avaient été les plus forts, ces salauds. Lorsqu'il eut un peu récupéré, il sortit de la maison pour respirer l'air humide. Il ne regarda pas sa demeure, qui l'avait prise en haine, comme il haïssait aussi les maisons voisines, les pelouses, les trottoirs et tout ce qui constituait Cimarron Street, son seul horizon. Il retrouvait peu à peu ses esprits, et soudain, il éprouva l'impérieux besoin de bouger. Ciel couvert ou non, il fallait qu'il aille en ville. Il ferma la porte d'entrée, ouvrit celle du garage et sortit la camionnette, sans prendre la peine de refermer le garage derrière lui. « Je rentrerai vite, » se dit-il, « rien qu'un petit tour. » Il se mit au volant, mit la voiture en marche, et tout de suite poussa sur l'accélérateur en se dirigeant vers Compton Boulevard. Il ne savait pas au juste où il allait. Il prit le virage à 60 à l'heure et passa à 90 avant d'atteindre le croisement suivant. La voiture bondissait en avant sous son pied qui écrasait le champignon. Ses mains étaient soudées au volant et il avait le visage figé d'une statue. Il descendit à 140 le boulevard désert et sans vie, le moteur grondant, seul, dans le grand silence. L'herbe du cimetière était si haute que son propre poids la faisait se coucher. On n'entendait aucun bruit, à part celui des pas de Neville et le chant absurde des oiseaux. « Jadis, pensa-t-il, je croyais qu'ils chantaient parce qu'ils étaient heureux de l'harmonie du monde. Je me trompais. Ils chantent parce qu'ils n'ont pas de cervelle. » Il avait couvert près de 10 kilomètres en voiture, avant de se demander où il allait. Curieusement, son esprit et son corps lui dissimulaient sa vraie destination. Il savait seulement qu'il était malade et qu'il lui fallait s'éloigner de la maison. Il ne se rendait pas compte qu'il allait rendre visite à Virginia. Pourtant, c'est vers le cimetière qu'il avait roulé à cette allure folle. Depuis quand n'y était-il plus venu? Au moins un mois. Il aurait dû apporter des fleurs, mais c'était seulement devant la grille qu'il avait pris conscience du but de sa course insensée. La vieille souffrance lui fit serrer les lèvres. Pourquoi Cathy n'était-elle pas là, elle aussi? Pourquoi avait-il obéi si aveuglément à ces imbéciles? Pourquoi avait-il promulgué leurs ordonnances idiotes durant l'épidémie? Il lui semblait qu'il aurait eu moins mal s'il savait que Cathy dormait là, près de sa mère. En approchant de la crypte, il tressaillit en remarquant que la porte de fer était entr'ouverte. « Oh non !» pensa-t-il en se mettant à courir dans l'herbe humide. « S'ils sont venus ici, s'ils l'ont touché, je jure que je brûlerai la ville entière jusqu'à ses fondations !» Il ouvrit la porte toute grande, et ses yeux allèrent au socle de marbre sur lequel reposait le cercueil scellé. Il était toujours là, intact. Neville eut un soupir de soulagement. C'est alors qu'il vit l'homme étendu dans un coin de la crypte, le corps lové à même le sol glacé. Avec un grognement de rage, Neville se jeta sur lui, et le saisissant par ses vêtements, le tira jusqu'à l'entrée de la crypte, et le jeta brutalement dehors sur l'herbe. Le corps roula sur lui-même, et s'arrêta sur le dos, sa face blême tournée vers le ciel. Neville rentra dans la crypte, en haletant un peu. Il ferma les yeux et posa les deux mains sur le couvercle du cercueil. « Je suis là, » dit-il tout bas. Je suis revenu, rappelle-toi. » Il jeta les fleurs qu'il avait apportées lors de sa précédente visite et ramassa quelques feuilles que le vent avait poussées à l'intérieur de la crypte. Puis il s'assit à côté du cercueil et posa son front sur le métal glacé. Le silence le prit dans ses mains froides et bienveillantes. « Si seulement je pouvais mourir maintenant, » pensa-t-il, tranquillement, doucement, sans cri, sans peur. « Si je pouvais rester avec elle, si je pouvais croire que je serais avec elle. » Ses doigts se crispèrent lentement, et sa tête se pencha sur sa poitrine. « Virginia, emmène-moi là où tu es. » Une larme coula sur sa main immobile. Il n'eut aucune notion du temps qu'il passa ainsi. Après un long moment, pourtant, son désespoir s'apaisa et il se sentit plus calme. Alors il se releva. « Oui, » pensa-t-il, « c'est ainsi. Je suis toujours vivant. Mon cœur bat, mon sang coule, mes muscles jouent. Tout cela sans raison et sans but. Mais c'est ainsi. » Il sortit de la crypte en refermant la porte derrière lui, doucement, comme s'il eût craint de troubler le sommeil de Virginia. Il avait oublié l'homme. Il faillit trébucher sur son cadavre et s'arrêta brusquement, stupéfait. Que s'était-il passé? L'homme était mort, bel et bien mort. Mais pour quelle raison? La transformation avait été si rapide et si complète que déjà, d'aspect et d'odeur, on eût dit un cadavre de plusieurs jours. L'esprit de Neville travaillait dans un grand état d'excitation. Quelque chose avait tué le vampire. Quelque chose d'extraordinairement efficace. Le cœur n'avait pas été touché. Il n'y avait pas d'ail aux alentours. Et pourtant... Mais oui, bien sûr. La lumière du jour. Neville s'injuria lui-même pour ne pas y avoir pensé plus tôt. Depuis 5 mois, il savait avec quel soin il s'enfermait durant la journée. Et pas une fois il n'avait fait le rapprochement entre les deux faits. C'était trop stupide. Les rayons du soleil, l'infrarouge et l'ultraviolet... Il fallait que ce soit cela. Mais pourquoi? Et pourquoi ne savait-il rien lui-même touchant les effets de la lumière solaire sur l'organisme humain? Autre chose, cet homme avait été un des vrais vampires, les morts vivants. Le soleil aurait-il les mêmes effets sur les autres, les vivants simplement contaminés? Pour la première fois depuis des mois, il éprouvait quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. Il courut jusqu'à la camionnette, en caquant la porte derrière lui. Il se demanda s'il n'aurait pas dû emporter le cadavre de l'homme et le jeter ailleurs. N'attirerait-il pas les autres? N'envahit-il pas la crypte? Non. De toute manière, il ne se rapprochait pas du cercueil entouré d'ail. En outre, le sang de l'homme, à présent, était mort. Et une autre idée se fit jour dans l'esprit de Neville. Les rayons du soleil avaient une action sur leur sang. Était-il possible, dès lors que tout fût relation avec le sang? L'ail, la croix, le miroir, le pieu, la lumière du jour, la terre où certains d'entre eux dormaient. Il ne voyait pas comment. Et pourtant, il fallait absolument qu'il se livrât à des recherches méthodiques. Peut-être la clé du problème était-elle là. Il avait déjà pensé à des questions de ce genre, mais peu à peu il avait laissé les choses aller leur train. Il fallait qu'il se mît à étudier sérieusement le sujet. La voiture repartit. Lorsqu'il atteignit le quartier résidentiel, il l'arrêta à proximité du premier bloc d'immeuble. La première porte à laquelle il s'attaqua était fermée à clé. Il réussit à pénétrer dans un immeuble voisin, monta des escaliers, entra dans un appartement sombre. Il trouva la femme dans la chambre à coucher. Sans hésiter, il arracha les couvertures et la tira par les poignets. Lorsque son corps heurta le sol, elle eut un grognement. Il la hala sans ménagement à travers la pièce. Dans le living room, elle commença à bouger un peu. Ses mains se crispèrent sur les poignets de Neville et son corps s'agita faiblement. Elle avait toujours les yeux fermés, mais elle haletait et semblait vouloir se soustraire à son étreinte. Ses ongles noirs s'enfoncèrent dans la chair de Neville. Il lâcha ses poignets et la saisit par les cheveux. D'habitude, il ne pouvait se défendre d'une certaine hésitation à la pensée que ces êtres, mis à part leur incompréhensible monstruosité, étaient semblables à lui. Mais à présent... Le besoin de savoir le poignet, et il était insensible à tout le reste. Malgré tout, il frissonna lorsque la femme émit un sourd gémissement de terreur au moment où il jeta son corps sur le trottoir. Elle y demeura étendue, impuissante, ses mains s'ouvrant et se fermant spasmodiquement, ses lèvres s'amincissant jusqu'à ne plus former qu'un imperceptible trait rouge. Robert Neville la regardait intensément, mordant ses propres lèvres. « Bien sûr, elle souffre, » se disait-il. « Mais elle est des leurs, et elle m'aurait tué avec joie si on avait eu l'occasion. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. » Pourtant, il claquait des dents en la regardant mourir. Au bout de quelques minutes, elle cessa de remuer, et ses mains s'ouvrirent comme des lys blancs sur le ciment. Neville se pencha et posa son oreille sur sa poitrine. Le cœur ne battait plus. Déjà, sa chair devenait froide. Il se redressa avec un mince sourire. Ainsi, c'était vrai. Plus besoin de pieux. Il avait trouvé une meilleure méthode. Après tout ce temps. Puis il eut un doute. Comment savoir, avant le crépuscule, si la femme était réellement morte? Cette pensée le remplit d'une colère nouvelle. Pourquoi chaque question en appelait-elle une autre? De toute manière, il ne pouvait pas rester là jusqu'au coucher du soleil. Il retourna à la camionnette qu'il avait parquée devant une épicerie et en profita pour entrer dans celle-ci et prendre une boîte de jus de tomate. Tandis qu'il buvait, la réponse éclata dans son esprit. Il n'avait qu'à emporter le corps avec lui. En mettant le moteur en marche, il consulta la montre du tableau de bord. 3 heures. Il avait tout le temps de retourner chercher le cadavre et de rentrer chez lui avant qu'ils arrivent. Il lui fallut près d'une demi-heure pour retrouver la maison et le corps de la femme, mettre ses gants, embarquer le cadavre dans la camionnette en évitant de regarder son visage. Cela fait, il referma soigneusement l'arrière de la voiture, ôta ses gants et s'assit au volant. Machinalement, il regarda l'heure à nouveau. 3 heures. Il avait tout le temps. Soudain, il eut un sursaut. Son cœur se mit à sauter dans sa poitrine. Il colla son oreille à la montre. Elle était arrêtée.